Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans LP de Nuit. LP de Nuit, c'est la référence à écouter pour être au plus proche du lycée. Vous retrouverez ici nos internes et leurs chroniques pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Et n'hésitez pas à nous retrouver en ligne sur le site de Delta FM ou bien sur notre page YouTube. Nous nous retrouvons ce soir pour voyager au travers du cosmos avec Léandro, au travers du temps avec Gabriel et de la musique avec Néo. Et maintenant que je vous ai présenté notre équipe de chroniqueurs pro, il est l'heure de lancer le générique, maestro. Nice. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite avec un voyage au cœur de l'industrie musicale avec Néo. Salut Néo.
Salut, salut, bonjour, bonsoir. Alors je vous propose ce soir de découvrir un univers aussi bruyant que passionnant, c'est le métal. Alors attention, le métal, c'est pas juste un seul style unique, c'est une galaxie, un multivers de styles différents. Et donc on va découvrir ensemble ces différents styles en débutant avec le power metal, donc au sommet symphonique, en passant par le thrash metal et explorant d'autres dérives du métal. Débutons par les racines du heavy metal. Donc tout commence à la fin des années 60, début 70, où Black Sabbath débarque et marque le début du heavy metal avec des guitares lourdes et des riffs plus sombres qui les différencient du rock classique. Puis arrivent des groupes comme Judas Priest, Iron Maiden ou encore Dio qui commencent à poser les bases, le look, les sons, l'attitude, des guitares saturées, des solos flamboyants et un chant puissant. Je vous laisse écouter Iron Maiden, The Trooper. Voyons maintenant les différents styles un peu plus en détail, en commençant par le thrash metal, donc un style rapide, technique et énervé, donc qui apparaît au début des années 80, où la Californie s'énerve et le metal devient plus rapide, plus agressif. Donc c'est l'arrivée donc du thrash metal. Donc pensez à Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax. Ça joue vite, ça crie un peu plus, ça parle de guerre, de politique, de société. C'est moins théâtral et plus urbain, un peu plus punk dans l'esprit. Et je vous laisse écouter un extrait de Slayer, Raining Blood, donc du thrash metal. Donc où on voit bien que les guitares sont plus rapides et un peu plus de mélodie. Ensuite, voyons le black metal, donc un style plus froid, plus sombre et mystique. Donc on prend en vol pour la Norvège, donc direction les forêts enneigées et les églises, et souvent en flammes. Donc oui, c'est le black metal, donc issu des pays nordiques, c'est là-bas qu'il émerge, avec des sons crus, des voix criardes et inhumaines, ainsi que des productions volontairement sales. Donc on est sur du très atmosphérique, très spirituel, et parfois très provocateur aussi. Donc c'est des groupes comme Mayhem, Burzum, Emperor qui ont marqué l'histoire. Mais le black metal, c'est aussi un style en constante évolution, avec des variantes comme le black gate, avec des groupes comme Alceste ou Deafhaven, donc qui sont plus mélodiques et planants. Je vais découvrir et découvrir Emperor de... Non, I Am the Black Wizard de Emperor, pardon. Donc on voit bien, ça crie, ça sonne un peu satanique. C'est le principe du black metal. Donc maintenant, approchons-nous du death metal et donc de la brutalité absolue. Donc si le black metal, c'est une brume glacée, le death metal, lui, c'est une explosion de feu et de sang. Donc c'est un style qui est né aux États-Unis et en Floride en particulier. Et c'est un genre qui est très technique et ultra brutal. Donc on y trouve des growls, c'est des voix très graves qui sortent des enfers, c'est souvent la description qu'on en fait, avec des blast beats à la batterie, des dissonances. Donc on pense à Death, Cannibal Corpse, Morbid Angel, Obituary, mais il y a aussi un Death plus mélodique comme en Suède avec In Flames, Dark Tranquility ou At the Gates. Je vais découvrir Symbolic de Death. Instinct within myself, relive the end. voilà, c'est là qu'on découvre donc ce qu'on appelle les blast beats et la batterie qui joue très très vite. Et donc c'est voilà, très marque du death metal. Donc abordons un aspect plus épique et fantastique maintenant avec le power metal. Donc le power metal, c'est des guitares rapides, des voix cette fois-ci ultra aiguës, des paroles sur les dragons, les batailles, les quêtes héroïques. On est vraiment dans un esprit fantastique et on y retrouve des groupes comme Halloween, Blind Guardians, Stratovarius, Rhapsody. Donc c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux, mais avec des guitares et des capes. Voici donc Emerald Sword de Rhapsody. Voilà, on retrouve ce côté vraiment épique qui est vraiment marque du power metal. Donc terminons ensuite avec le metal industriel, qu'on appelle donc le new metal. On retrouve aussi le metal progressif et le djent, qui sont globalement des fusions modernes. Donc le metal, il s'est jamais arrêté d'évoluer. Et on retrouve du coup quelques genres hybrides, comme l'indus metal, donc, qui est composé de guitares et de machines. Donc on peut retrouver des groupes comme Ministry, Rammstein, assez connu, Nine Inch Nails... dans le new metal ensuite, qui est ensuite plus accessible et qui est mélangé souvent avec du rap ou de l'électro, on retrouve des groupes comme Linkin Park, Korn ou Slipknot par exemple. Ensuite dans le metal progressif, donc qui est très technique et souvent expérimental, on retrouve des groupes comme Dream Theater, Opeth ou encore Tool. Et pour finir, on va parler un peu du djent, qui lui est un sous-genre moderne du prog, avec des rythmiques hyper saccadées et des groupes donc comme Periphery et Meshuggah notamment. Donc voici Psychosocial de Slipknot. Donc new metal. Pour conclure, on voit bien que le métal, c'est un genre aux mille visages. C'est pas juste du bruit, du cuir et des gens qui hurlent. C'est une immense mosaïque de sons, de cultures, d'histoires. Donc que vous soyez plutôt licorne et solo épique ou blast beat et ténèbres scandinaves, il y a forcément un sous-genre qui vous plaira. Et peut-être même que vous écoutez déjà du métal sans le savoir. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, surtout écoutez du métal. C'est très important. Donc c'était Néo, merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup Néo pour cette super chronique et de nous avoir fait découvrir un peu d'autres facettes du métal qu'on ne connaissait pas forcément.
Avec plaisir.
Par exemple, le métal épique, moi je suis à fond.
Le power metal.
Je propose qu'on l'écoute à la fin de l'émission si ça vous va les gars.
Ouais, c'est parfait.
Avec plaisir.
Carrément. Merci beaucoup Néo. Merci de nous avoir accompagnés sur cette belle chronique.
Mais de rien.
Et je vous propose qu'on enchaîne sur un trajet jusqu'à notre petit bâtiment de la semaine avec la nuit archi intéressante de Gabriel. Bonjour Gabriel.
Donc aujourd'hui, on va aller à New York. Donc, il faut vous imaginer au début du XXe siècle, en plein cœur de New York. Et là, vous levez les yeux au ciel et au-dessus de vos têtes se forme un grand bâtiment très étrange, une forme triangulaire. Eh bien, c'est le Flatiron Building. Et donc, le Flatiron Building, c'est un gratte-ciel qui est en ossature d'acier à New York et qui était achevé, du coup, en 1902. Sa construction a duré 2 ans. C'est l'un des plus anciens gratte-ciels encore existants de la ville. Donc le Flatiron Building est sur la 5e avenue et il est remarquable non seulement par son apparence atypique, mais aussi parce que c'est l'un des bâtiments phares du mouvement Beaux-Arts classique. Son architecte, donc né à New York, c'est Daniel Berman. Il est plus connu pour son travail, pour ses projets à Chicago. Donc je vous avais parlé dans une autre chronique de l'école de Chicago qui a commencé avec les premiers buildings. Bah, il venait de cette école notamment. Donc il avait son cabinet à Chicago, ainsi que donc aussi à New York. Et c'est en 1873 qu'il s'associe avec John Welborn Root, et il a contribué à la création du coup d'un groupe d'architectes, d'ingénieurs appelé l'École de Chicago. Donc ce bâtiment a été construit à la demande de George L. Feller, qui est donc un homme d'affaires un peu riche, qui s'est dit qu'il voulait créer un immeuble pour créer un peu de nouvelles sociétés, pour faire un nouveau centre d'affaires au nord de Wall Street. Il faut savoir que cette configuration est unique et surtout due à son emplacement en fait. Il était déjà au croisement de plusieurs avenues, donc à Midtown, avec d'un côté la 5e avenue de Broadway et la 23e rue. Et donc c'est pour ça qu'on a un bâtiment qui a une base triangulaire. Et c'était un des endroits qui était déjà à l'époque un des plus vus de New York, et donc c'est pour ça que c'est un endroit qui est aussi marquant pour sa construction. Donc c'est une orientation diagonale de Broadway, donc des deux rues, qui a conféré sa forme inhabituelle. C'est pas forcément la volonté de l'architecte, c'est quand ça a été commandé, on lui a dit « tu vas prendre ce terrain », et il s'est dit bah, « je vais me débrouiller ». Et donc il faut savoir qu'il fait quand même 87 mètres de haut. Donc comme je disais, il a une ossature en acier, donc c'est-à-dire qu'on a une structure qui est entièrement en acier, et il est construit sur trois sections horizontales, telle une colonne grecque si on peut comparer avec un peu les inspirations de l'architecte. Et c'est un fait inhabituel pour l'époque, il avait de très nombreux ascenseurs, ce qui était assez rare. Donc ça permettait vraiment de pouvoir se promener, parce qu'il faut savoir qu'il y avait 20 étages quand même, donc pouvoir facilement se déplacer, parce que c'est vrai que l'escalier c'est un peu long quand même. Donc à l'origine il avait 20 étages, donc en 1902, et après il y a eu une extension qui a été construite avec deux étages supplémentaires, donc 22 étages pour arriver à 87 mètres de haut, donc finalement en 1905. Donc à son point le plus étroit du bâtiment, donc tout à sa pointe, il faut savoir que bah, on est quand même à 87 mètres de haut, mais que la largeur c'est 2 mètres de large. Donc on est vraiment sur un... à la pointe, vraiment c'est très très petit l'intérieur. Et c'est pour ça que les plans du bâtiment triangulaire sont assez étranges. Parce qu'au final, on a des bâtiments qui ont 4 façades, qui ont une forme assez classique. Et lui, du coup, il s'est retrouvé avec un bâtiment avec 3 façades, avec une pointe, ce qui était assez innovant pour l'époque. Et donc il a opté pour 2 façades avec des formes arrondies, donc les 2 façades qu'on arrive au croisement de la rue, et une derrière avec quelques décorations style plutôt renaissance française-italienne. Et donc sa conception, comme je disais tout à l'heure, est inspirée d'une colonne grecque. Pourquoi une colonne grecque? Parce qu'en fait, on a les 5 premiers étages qui sont comme une base, en fait. Au niveau des formes, on va avoir beaucoup moins de formes, ça va être très simple. Alors qu'on a une partie centrale qui va avoir, un peu comme des colonnes grecques, des différentes, comment dire, des creux à l'intérieur, pour un peu dans le béton, pour faire un peu une forme de colonne, tout simplement. Et la partie, du coup, supérieure, qui ressemble beaucoup plus à un chapiteau, donc avec beaucoup plus d'ornements, qui sont les derniers étages du bâtiment. Mais à sa sortie, enfin, quand il a été créé, à l'époque, ça faisait beaucoup de moqueries. Parce que nombreuses personnes ont pris Daniel Burnman pour un fou, parce que sa forme, sa taille, enfin, c'était complètement démentiel de faire ça pour l'époque. Il faut savoir que c'était le plus grand bâtiment de New York à l'époque, quand il a été construit. Donc personne n'y croyait. Et d'ailleurs, le nom Flatiron Building vient de, en fait, tout simplement, le fait qu'à l'époque, en anglais, pour dire fer à repasser chez nous, ça se dit flat iron. Donc c'est par rapport à sa forme, comme un triangle de fer à repasser. C'est ça qui s'appelle Flatiron aujourd'hui. Mais comme on le prenait un peu pour un fou, le bâtiment s'appelle aussi Birdman Folly, donc en référence à la folie de l'architecte, bien connu évidemment. Mais il faut savoir que son bâtiment, malgré tout, il a quand même marqué l'histoire. Et il y a plusieurs anecdotes sur ce bâtiment qui sont assez intéressantes. Donc tout d'abord, ce bâtiment, il a donné son nom au quartier de New York juste après. Donc le quartier, c'est après le Flatiron District. Il a accueilli aussi le siège de New York Times, donc il était assez connu quand même comme bâtiment. À l'origine, il y avait aussi une terrasse d'observation au dernier étage, donc vous pouvez avoir une vue imprenable sur Manhattan, surtout quand ça devait être le plus grand bâtiment de la ville, on devait surplomber tout. Et il faut aussi savoir que c'est un bâtiment, c'était une critique notamment des personnes qui ne voulaient pas qu'il se crée, c'était qu'il y a beaucoup de vent en fait, parce que c'était un endroit à une rue qui avait énormément de vent. Et une fois que ça a été construit, ça s'est confirmé, on observe une accélération des vents au niveau du bâtiment. Et malgré tout, il tient toujours debout, donc l'architecte a bien fait son travail avec les ingénieurs, tout s'est très bien passé. Mais c'est aussi un bâtiment qui apparaît beaucoup au cinéma. On l'a vu notamment dans Spider-Man, donc c'est l'immeuble par exemple où il y a le journal pour lequel travaille Peter Parker, donc personnage principal. On l'observe aussi dans des films comme Godzilla, Catastrophe, où il va détruire ce bâtiment et on voit donc ce bâtiment emblématique se faire renverser. Donc c'est un bâtiment qui malgré tout reste un monument emblématique du paysage new-yorkais, à tel point que bah, du coup, le quartier a pris son nom. Et il a été aussi classé au monument historique américain en 1989. Malheureusement, aujourd'hui, il est désaffecté, il faut savoir. Et donc, il y a un projet de réaménagement plutôt résidentiel. Car à l'époque, il était un peu des bureaux administratifs, avec notamment des questions de bourse, d'argent, etc. Et au fur et à mesure des années, il y a eu pas mal de péripéties qui ont fait qu'il n'a pas pu être aménagé, notamment à cause des prix des loyers à New York. et aujourd'hui ils vont le réaménager pour en faire une zone résidentielle. Voilà. Donc je vais avoir quelques questions pour vous sur ce bâtiment.
On t'écoute.
Donc première question, en combien d'années a été construit le bâtiment ? Attention.
En deux.
En deux années et bonne.
Je sais que c'est en 1902.
C'est ça.
C'est en deux années.
Et c'est la bonne réponse simplement. Et oui, donc ça a commencé en 1900 le travaux et ça a été fini en 1902. Et après l'agrandissement en 1905. Donc quel est le nom de l'architecte ? Donc réponse A, Daniel Burnman. Réponse B, Emanuele Rocco. Et réponse C, George I. Fuller.
Troisième option.
Ouais, troisième.
Ouais, c'est pas la réponse A.
Eh bien, c'était la réponse A, effectivement.
Ah, j'ai
car en fait, la réponse C, George R. Fuller, c'est celui qui a financé le bâtiment.
Ah, oui, ouais. Ah, ouais.
Donc, c'est l'homme d'affaires. Et Daniel Burnman, donc c'est lui qui a donné son nom au bâtiment, etc.
Ouais, c'est ça.
Et donc, lui, c'est l'architecte. Et Emmanuel Rocco, c'était le piège de la semaine dernière, tout simplement. Donc, quelle est la taille du building ? Donc, réponse A, 87 mètres. Réponse B, 100 mètres. Réponse C, 23 étages. Il n'y a qu'une seule bonne réponse, bien sûr. Donc, réponse A, 87 mètres. Réponse B, 100 mètres. Réponse C, 23 étages.
Je ne sais plus, mais j'aurais tendance à dire réponse 1.
Je serais plus sur les 23 étages, quand même.
Ouais, peut-être. Je ne sais pas.
Réponse A et 22 étages.
C'est ça, c'était la réponse A avec 87 mètres et 22 étages et non pas 23. Et bien, merci de m'avoir écouté, c'était ma 8e chronique.
C'était le pied. Merci beaucoup à toi, Gabriel. Et je vous propose qu'on termine tout de suite par un bout de voyage à l'autre bout du cosmos, ou pas. On te laisse nous guider. Si, à l'autre bout du cosmos, j'ai hâte alors.
On va même dans l'invisible du cosmos.
Oh, très bien. Eh bien, on t'écoute tout de suite.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Leandro et bienvenue dans les Récits du Cosmos, votre chronique sur l'astronomie et tout ce qui l'entoure. Ce soir, nous allons plonger dans l'un des mystères les plus fascinants et vertigineux de l'univers, les trous noirs. Ces objets cosmiques éveillent autant la curiosité que la crainte car ils défient notre compréhension du temps, de l'espace et de la matière. Un trou noir, c'est ce qu'il reste lorsqu'une étoile massive meurt dans une explosion gigantesque appelée supernova. Donc c'est ce qui arrivera si par exemple le soleil explose un jour, on aura un trou noir à la place. Si le cœur de cette étoile est suffisamment lourd, il s'effondre sur lui-même, formant une région de l'espace où la gravité est si forte que rien ne peut s'en échapper. Pas même la lumière. C'est pour cela qu'on les appelle trous noirs. Ce sont un peu les fantômes de l'univers, les vestiges d'étoiles disparues. Mais alors, comment sait-on qu'ils existent si on ne peut pas les voir ? Les astronomes les détectent grâce à leurs effets sur ce qui les entoure. Par exemple, si une étoile tourne autour d'un point invisible ou si un rayonnement X intense est émis à cause de la matière chauffée en tombant dedans. Cela peut révéler la présence d'un trou noir. En 2019, une équipe internationale de scientifiques a même réussi à capturer la toute première image d'un trou noir dans la galaxie M87, une sorte d'anneau de feu brillant autour d'une tache d'ombre. Une image historique rendue possible par un réseau mondial de radiotélescopes, comme si la Terre elle-même s'était transformée en un gigantesque œil braqué vers les confins du cosmos. Il est important de ne pas confondre les trous noirs avec un autre grand mystère cosmique, la matière noire. Contrairement aux trous noirs, la matière noire ne résulte pas de l'effondrement d'étoiles. Elle est invisible, ne produit pas de lumière, ne forme pas d'étoiles ni de planètes, mais sa présence est détectée grâce à son influence gravitationnelle sur la matière invisible. Par exemple, les galaxies tournent plus vite que ce que leur masse visible devrait permettre, ce qui suggère qu'une grande quantité de matière invisible, dite noire, agit en coulisses. On estime qu'environ 85% de la matière de l'univers serait composée de cette substance mystérieuse. C'est un autre pan dans l'invisible de l'univers, encore plein de mystères, qui n'a pas fini de faire parler lui. Depuis des millénaires, l'idée de l'invisible ou du vide qui aspire tout ce qui a tout aussi fasciné les cultures. Dans la mythologie hindoue, le dieu Shiva représente la destruction et la transformation, un peu à l'image des trous noirs qui détruisent la matière mais peuvent aussi faire naître de nouvelles étoiles en influençant leur environnement. Chez les Mayas, le centre de nos galaxies, la Voie lactée, était vu comme une porte vers l'au-delà, à la fois lieu de mort et de renaissance, à l'instar du cœur caché des galaxies où se nichent souvent des trous noirs supermassifs. Dans la Grèce antique, certaines écoles philosophiques, comme celle de Démocrite, imaginaient déjà un univers composé de vide et d'éléments invisibles. Une intuition qui résonne étrangement avec nos découvertes modernes. Les trous noirs nous rappellent que l'univers est rempli d'énigmes, que notre connaissance reste incomplète. Ils sont le symbole d'un cosmos en perpétuelle évolution, où même les lois connues de la physique peuvent être mises à l'épreuve. Ils inspirent la science, comme la célèbre théorie de la relativité d'Einstein, mais aussi la science-fiction, un Interstellar ou Event Horizon, où les trous noirs deviennent des portails vers d'autres dimensions. Même la saga Star Trek les évoque comme un passage vers d'autres régions de l'espace-temps, mêlant imagination et spéculation scientifique. Aujourd'hui, les chercheurs s'interrogent. Un trou noir peut-il mener à un autre univers ? Pourrait-il contenir en son centre un point de passage, un trou de ver ? Et si un jour l'humanité parvenait à comprendre leur fonctionnement, serions-nous capables d'explorer au-delà des limites actuelles de notre univers observable ? Alors, la prochaine fois que vous levez les yeux vers le ciel et que vous imaginez les milliards d'étoiles qui s'y trouvent, souvenez-vous que quelque part, silencieusement, un trou noir se cache peut-être, avalant le temps et la lumière, et nous rappelant que le cosmos a encore bien des secrets à nous révéler. Merci de m'avoir écouté, c'était Leandro, et à une prochaine pour plus de récits du cosmos.
Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir tout ça, Leandro, c'était absolument magnifique. Merci.
Y a pas de quoi.
Et c'est sur cela que l'on se quitte, très chers auditeurs et auditrices. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission en direct de LP de nuit. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site et sur la page YouTube de Delta FM. Bien entendu, merci beaucoup à toi, Néo.
Ben, merci à vous d'avoir écouté.
Merci, Gabriel.
Merci et à la semaine prochaine pour un nouveau bâtiment.
Et merci à Leandro.
Y a pas de quoi.
Et on se retrouve la semaine prochaine, exactement, à 18h sur Delta FM 90.2. C'était Lola pour LP de nuit.